se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h02, vous êtes sur RMC, RMC Story, canal 23, vous êtes dans Estelle Midi, on est ravis d'être à vos côtés jusqu'à 15h avec Thibaut Texer, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Et on va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi à la fin du jour. Ça, ce sera dans un instant. Il y aura le meilleur du jour sur RMC, le zapping à 13h30, 13h50, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. On vous donnera des conseils pour négocier une augmentation. À 14h, un automobiliste sur deux est aujourd'hui empêché de rouler dans les grandes agglomérations car ils ne respectent pas les critères environnementaux des zones à faible émission. Est-ce qu'il faut supprimer ces zones? On attend bien sûr vos réactions au 32-16. 14h30, RMC s'engage pour vous avec des révélations concernant l'affaire des implants contraceptifs Bayer et puis un très beau cadeau à gagner, Thibaut.
Eh oui, vous pouvez gagner un voyage au Qatar, ou plutôt aller assister au match Tunisie-France. Ce sera le 30 novembre prochain pour la Coupe du Monde. Tout est pris à nos frais à RMC. Vous allez aussi rencontrer l'équipe de RMC sur place. Vous pouvez vous inscrire en envoyant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Le grand gagnant sera à l'antenne le vendredi 30 septembre.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser dans Estelle Midi à la fin du jour. C'est celle des arrêts maladie via une téléconsultation. Un projet de loi devrait mettre fin à cette pratique qui a quand même coûté 100 millions d'euros à la Sécu l'année dernière.
Et oui, ces arrêts délivrés en visio par un professionnel qui n'est pas le médecin traitant ne seront plus remboursés par la Sécurité sociale. Et ce, à partir du 1er janvier 2023, annonce du ministre des Comptes publics hier dans un entretien publié au JDD. La mesure sera présentée dans le cadre du projet budget de la Sécurité sociale rendu public ce lundi. Gabriel Attal s'appuie sur une explosion de ces arrêts maladie, tu l'as dit Estelle, qui ont coûté selon lui 100 millions d'euros l'an dernier. Il avance l'idée que certains enchaînent les consultations en ligne jusqu'à trouver le médecin qui acceptera de délivrer un arrêt maladie, citant l'exemple de personnes qui ne déclarent qu'une activité salariée et qui vont sur le bon coin pour proposer leurs services. Pour aider à la lutte, le ministre promet de renforcer les pouvoirs des cyber-enquêteurs pour les caisses de la Sécurité sociale. Selon un baromètre Malakoff Humanis publié début septembre, plus de 4 salariés sur 10 ont déposé un arrêt maladie depuis le début de l'année, un chiffre en hausse de 4 points par rapport à l'an dernier.
Alors, mettre fin aux arrêts maladie via la téléconsultation, est-ce que c'est logique ou scandaleux, Perico Légas?
Je comprends même pas comment ça a pu exister. Comment on a pu qu'il y ait une consultation vidéo,
ouais,
parce qu'il y a peut-être une urgence médicale, mais donner un arrêt de travail, surtout si c'est pas médecin traitant. Mais enfin, c'est une aberration sans nom. C'est une porte ouverte à toutes les preuves, à toutes les fraudes, à la paresse, au contournement. Je dis pas que toutes ont été illégitimes ou frauduleuses. Mais en tout cas, c'est la porte ouverte aux dérives. La preuve, c'est qu'on les arrête.
D'accord. Alors, pardon. Madame Dupont habite dans un désert médical. Son premier médecin est à 40 km. Elle a 40 de fièvre. Elle fait comment, en fait? Elle fait une téléconsultation et le médecin lui dit, allez travailler demain?
C'est un problème.
Oui, c'est un problème.
Ouais. Il n'y a pas besoin d'habiter, en campagne ou en zone rurale. Hein.
Voisin.
Ça m'est arrivé au mois d'août à Paris, j'habite en banlieue parisienne, j'ai eu à appeler mon médecin qui n'était pas là, j'ai appelé SOS Médecin, SOS Médecin ne me proposait rien d'autre qu'une visioconférence et m'a fait un arrêt maladie par visioconférence.
Bah oui, quoi, comment on fait, Perico? Il y a des gens qui ne peuvent pas voir des médecins
comment
comme ça à la minute.
Et ben ça s'arrête.
On nous dit qu'il faut désengorger les urgences, mais comment tu fais? Les gens, il faut une téléconsultation.
C'était mal pensé, mal conçu, ça a été abusé. Il y a déjà une fraude sur les arrêts maladie.
Ouais.
On dit que c'est pas vrai, mais c'est monstrueux. J'ai des témoignages tous les jours qui sont scandaleux. Là, je pense qu'il y a des médecins qui devraient passer en justice parce qu'ils, pour qu'ils rendent des comptes, c'est l'argent du contribuable.
Et tu peux frauder aussi de visu. Hein.
Bien sûr, mais je vous dis, il y a déjà sa fraude de visu. Alors, en plus, par télétravail, la preuve, on l'arrête. Donc, très mauvaise mesure.
On arrête la... Ah, d'accord.
Et voilà, on l'arrête. Voilà.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une téléconsultation, pourquoi? Pour que le médecin, il dise,
alors,
je vais vous renouveler votre ordonnance de Doliprane.
Peut-être qu'il faut la limiter sur certaines contrées, à certaines distances, quand le désert médical est avéré, que la Sécurité sociale confirme qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ensuite, en fonction de l'urgence de la santé, si vraiment la personne est très malade, bien sûr. Voilà, mais je suppose que si on fait aujourd'hui l'inventaire de ces arrêts de travail, en visioconférence qui ont été donnés.
Mais sauf qu'on nous a poussé à faire de la téléconsultation. Donc, à un moment, on te pousse et derrière, on se dit, c'est pas bien.
Ça fini parce qu'on ferme le bureau de poste et puis il n'y a plus de médecin. On va tout numériser, on va tout digitaliser. Voilà, on finira avec un cortex dans un bocal avec des électrodes. Ça ne serait même plus la peine de voter. Après les bureaux de poste, on fermera les bureaux de vote.
Est-ce que ça discrimine de... encore plus les déserts médicaux pour vous, Jérôme Lavrieux ?
Non, je pense que le problème qui est mis en exergue, c'est l'abus, comme à chaque fois, et la fraude. Qu'on n'arrive pas à suivre de manière numérique le fait que le type, dans la même journée, fasse 2, 3, 4 visios avec 2, 3, 4 médecins qui ne le font pas gratuitement. Donc il l'a payé. Et je suppose qu'il n'a pas payé de sa poche. Il a donné sa carte, il l'a rempli, je ne sais pas comment on fait, je n'ai jamais fait par visio.
Bah, tu fais une téléconsultation, tu donnes ton numéro de carte vitale et
donc,
voilà. Quoi.
Donc, il y a un moment, un ordinateur qui voit qu'il y a 4 remboursements pour une consultation le même jour. Bah, c'est là où il faut intervenir.
Tout à fait.
C'est ça. Pourquoi interdire la visio par principe ? C'est là où il faut intervenir.
Ils interdisent pas la visio, ils ne remboursent plus les arrêts maladie. Donc autant te dire que les gens ne se mettent pas en arrêt maladie.
Mais même sans ça, un carnet de santé, même en visio.
Sauf que normalement, il y a un médecin, ils sont censés être tous formés pareil. Soit il vous dit oui, ça mérite un arrêt de travail. Soit il vous dit non. Et là, vous appelez le second, voilà. Il vous dit non. Et vous appelez le troisième, il vous dit non. Vous avez déjà réglé 3 consultations sur mon dos de cotisants.
Oui.
Et bien, au bout d'un moment, il y a une alerte qui doit sonner quelque part.
Tout à fait.
On est en train de nous dire que l'administration fiscale arrive par l'intelligence artificielle à regarder celui qui a déclaré ou pas sa piscine. Super.
Voir sa véranda.
Il suffit d'aller regarder sur Google Maps et vous allez le trouver. Et là, on n'arrive pas à dire, attendez, il y a un abruti qui a fait 4 consultations dans la même journée.
Tu peux faire 4 consultations dans la même journée. Évidemment, c'est 4 généralistes, c'est embêtant. Je suis désolée, tu peux avoir un scanner du genou le matin, aller voir ton.
Parce que ça, les scanners, c'est pas par téléconsultation.
Oui, non, ça j'entends. Non, mais oui, ça c'est vrai.
D'accord.
Mais ça c'est vrai, oui, t'as raison.
Mais pour moi.
Mais tu peux aller voir plusieurs médecins en téléconsultation. Rien ne t'empêche d'aller voir ton gynéco. Enfin, de prendre téléconsultation avec ton gynéco. Ah, bah oui, si.
Mais
pour faire une ordonnance, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, tu ne montres pas la caméra, ça c'est sûr.
Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr qu'il y a
parle
des gens
micro,
qui
Jérôme, ce sera mieux.
Bien sûr qu'il y a des gens qui pourront le faire pendant 4 fois et que ce sera nécessaire. Et ben là, on le justifiera. Mais le type qui fait pour juste
avoir son arrêt maladie, il va faire 20 fois s'il faut.
C'est juste hallucinant.
Il n'est pas comptabilisé.
Emmanuel, je vous garde au chaud quelques instants parce que nous sommes avec Dr Pepper. On l'adore, on est ravis, bien sûr, qu'il soit dans Estelle Midi aujourd'hui, médecin généraliste en Bretagne. Ça va, Dr Pepper ?
Ça va très bien, j'ai un petit peu faim, mais j'irai manger après.
Oui, mais nous aussi, vous savez, tous les jours comme ça, midi 15h. Mais vous savez, on s'habitue à tout.
On a la diète ici.
On parle de justement cette mesure, là, ce projet de loi pour limiter les. Enfin, pour arrêter, même dire, les arrêts maladie par téléconsultation. Ça vous paraît une bonne mesure, vous ?
De toute façon, je pense que c'était une évidence que ça allait arriver parce qu'effectivement, c'est une gabegerie absolue. On est dans l'exemple même de ce que la Startup Nation a mis en place il y a quelques années, c'est-à-dire la téléconsultation présentée comme un truc absolument fantastique, allait solutionner plein de problèmes. Et puis, c'est oublié le consumérisme médical poussé à outrance qui existe dans notre pays, qui a été encore plus facilité par la téléconsultation. Alors, je suis pas toujours d'accord avec Perigo Legas, mais là, oui, il a raison, il y a des abus clairement. Et je le vois, moi, tous les jours, plus d'une personne sur deux que je vois en téléconsultation, parce que j'en fais pas mal, j'en fais 8 à 10 heures par semaine, c'est pour un arrêt de travail. Et parfois justifié, mais parfois ça ne l'est pas.
Les gens ? Bonjour docteur, je veux un arrêt de travail ?
Clairement. Voilà, c'est bonjour docteur. Attendez, même mieux, parfois c'est bonjour docteur, j'ai vu le médecin cet après-midi. Mais il a oublié de faire un arrêt de travail. Voilà, donc qu'est-ce que je fais ? Je regarde le patient, effectivement, il y a peut-être des arguments pour pas qu'il aille aujourd'hui ou demain en arrêt, et puis on le fait. De toute façon, si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera derrière, donc ça coûtera encore plus d'argent à la sécu. En plus, c'est des gens qui vous appellent à 23h le soir, donc c'est 60 euros la téléconsultation. Bon, c'est pas la sécu. Non, mais c'est une gabegerie complète. Alors, le problème, on peut pas dire comment fait les gens qui sont à 40 km. Alors, je rappelle juste qu'il n'y a que 0,2% de la population française qui est à plus d'une heure d'un centre de santé. Voilà. Donc, on peut toujours voir des gens, c'est possible. Alors, le problème, c'est que, et là je donne une statistique de Doctolib, c'est qu'il faut 3 jours en moyenne pour avoir rendez-vous chez son médecin traitant. Et que l'immense majorité des arrêts de travail sont de moins de 3 jours. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont confrontés au fait que ils auront un rendez-vous chez leur médecin une fois passé ils seront guéris quand ils iront voir leur médecin.
Ben oui.
Et si on pouvait, la Sécurité sociale, mettre en place ce que nous, médecins, demandons, qu'on arrête les arrêts de travail de moins de 3 jours, que ce soit auto-déclaratif, On nous a toujours dit ça fonctionne pas, et pourtant avec le Covid, ça a très bien marché. Les gens allaient sur Internet, ils allaient sur declare.amélie.fr, ils disaient « je suis malade du Covid, blablabla », et l'arrêt de travail se faisait automatiquement. On demande à ce que la même chose soit faite, comme dans de nombreux pays d'Europe, pour les arrêts de travail de moins de 3 jours, ça solutionnerait plein de choses, beaucoup de choses.
Emmanuel Dancourt.
Alors, j'entends beaucoup de choses très intéressantes. Le chiffre de 0,2% des Français, je le connaissais. Moi, j'habite en campagne, on se connaît pas, hein, Dr Pepper, mais moi, j'habite en campagne en Bourgogne. Pendant très longtemps, il nous a manqué 2 médecins. Il y en a un qui faisait tout, qui travaillait sur des horaires pas possibles. À partir du moment où il était absent, c'était la cata absolue. Et maintenant qu'ils ont réussi à faire venir des jeunes, parce que c'est dur de faire venir des jeunes s'installer en campagne, moi, quand mon médecin référent, il est absent, eh ben, je sais plus quoi faire. Alors, des arrêts de travail, je suis indépendante, donc j'en ai jamais demandé un seul, parce que je peux vous assurer que les indépendants ne demandent pas d'arrêt de travail.
70% du territoire est un désert médical. Hein.
Ah bon, on va assurer, parce que d'accord.
On peut parler des déserts, mais 70%, c'est un problème global. Hein.
Voilà, mais le problème, c'est que moi, si mon médecin, moi, il a le droit d'être malade lui aussi, ou absent, ou en vacances, et qu'il n'arrive pas à se faire remplacer, je suis bloquée. Donc si on ne me laisse plus avoir accès à ces téléconsultations, alors peut-être qu'il faudrait un fichier avec les gens qui ont droit d'avoir accès à des téléconsultations parce qu'ils habitent à tel endroit, etc. etc. Mais sinon, après, c'est direct Dijon, quoi. Et Dijon, c'est 30 bornes, quoi. Et ça se trouve, j'ai mes gamins qui sont malades à la maison.
Je suis pas contre, je dis simplement qu'il y a effectivement des façons de verrouiller. La plateforme de téléconsultation sur laquelle je travaille, je vous assure, quand la fiche du patient arrive, j'ai un gros warning rouge qui apparaît quand il y a plus de 5 arrêts de travail dans les 4 derniers mois.
Ah ça, vous le savez, ça, c'est génial.
Mais c'est-à-dire que ma plateforme de téléconsultation fait le boulot de la Sécu. Parce que la Sécu ne fait pas ce boulot-là. Je vous rappelle que la Sécu est incapable de savoir qu'un dentiste fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, alors que c'est 20 fois ce qu'un dentiste doit faire, mais la Sécu s'en alarme pas. Donc, on pourrait parler des outils numériques de la Sécu qui sont catastrophiques, hein. Mais ils sont vraiment dans les années 80. Donc, il faut pas leur demander. Mais la plateforme sur laquelle je travaille le fait. Et on bloque, bien sûr.
En même temps, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours très malade, qui vous appelle pour un arrêt maladie. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est si cette personne a eu 5 arrêts maladie de complaisance, mais que le 6e, c'est vraiment pour quelque chose et que ça tombe sur vous, c'est embêtant, quoi.
Oui, mais bon, on a toujours des critères, on arrive à discuter, puis au bout d'un moment, on leur dit, bah, écoutez, non, la téléconsultation a ses limites, c'est toujours, a toujours des limites, et on dit, là, il faut que vous voyez un médecin en présentiel, il faut que vous voyez un médecin en face de vous. Mais il ne faut pas se leurrer. S'il n'obtient pas en téléconsultation, il l'obtiendra en présentiel dans une structure de soins type SOS médecin ou de soins non programmés.
Ah, c'est ça. Bon, donc ça change rien en fait.
Parce que ça sera un patient qui connaît pas.
Mais ça change rien alors en fait, puisque là ce que vous me dites c'est que s'il a pas son arrêt de travail en téléconsultation, il ira voir un médecin en physique. Donc
oui, mais s'il a pas 42 fièvre, au moins pourra vérifier.
C'est le consumérisme médical. C'est pas la téléconsultation le problème, c'est le consumérisme médical.
D'accord.
Et qui est totalement sans limite.
Ben merci beaucoup Dr Pepper d'avoir été avec nous dans Estelle Midi, toujours extrêmement intéressant. On est avec Jonathan qui nous appelle de la Chapelle en Vercors dans la Drôme. Bonjour Jonathan.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Je suis
content d'être avec vous pour ce débat.
Mais nous aussi, Jonathan. Alors, est-ce que vous faites partie de ces Français qui surconsomment la téléconsultation ?
Alors non, je ne surconsomme pas la téléconsultation. Je me suis mis dessus cette année, puisque nous n'avons pas beaucoup de médecins, c'est vrai, dans ma région. Et moi, étant saisonnier, je travaille beaucoup avec des conditions de travail qui sont assez intenses. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai dû faire appel à cette téléconsultation 2 fois ces 6 derniers mois et 1 fois au début de l'année pour des arrêts de travail finalement d'une journée. Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi, alors je suis plutôt d'accord avec ce qui se dit sur le plateau, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a quand même des médecins sur des applications de téléconsultation qui ont tendance à balancer 3 jours d'arrêt maladie un petit peu très facilement et où c'est moi qui ai dû insister pour n'avoir qu'une seule journée, sachant que je ne serai pas payé de toute manière et que je n'avais pas besoin de plus. Alors là, il faut aussi commencer à faire la part des choses. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas interdire en tout cas qu'il ne faut pas interdire voilà pour des arrêts de travail. En même temps, c'est clair que là il faut commencer à légiférer, il faut commencer à mettre des choses en place pour réguler tout ça, parce que j'ai entendu combien ça coûtait à l'État
100 millions
c'est c'est énorme, c'est beaucoup trop. Et je pense que oui, il y a effectivement des abus. Et ça s'est confirmé effectivement avec les informations que j'ai pu avoir dans votre débat. Mmh. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est vraiment efficace dans le sens où effectivement, quand on tombe sur des médecins consciencieux qui s'intéressent vraiment à vous, qui s'intéressent vraiment à votre cas, et bien effectivement, ça, c'est vraiment une plus-value pour des gens qui sont un petit peu comme moi, dans des zones rurales, etc.
Après, mais Jonathan, est-ce que vous pensez que vous auriez eu ces arrêts de travail si vous étiez allé voir un généraliste de visu, justement?
Alors, si j'avais pu avoir la chance d'aller en cabinet, parce que j'ai effectivement ça n'a pas été possible, je pense qu'avec mon médecin traitant, ces arrêts maladie, effectivement, je les aurais eu. Après, il faut aussi connaître un petit peu son patient aussi, et ça, c'est le rôle des médecins traitants, évidemment.
Bah merci beaucoup Jonathan pour votre témoignage. Merci de nous avoir appelé au 3216. Jean-Jacques est médecin généraliste à Bordeaux. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour tout le monde.
Jean-Jacques, est-ce que vous faites de la téléconsultation?
Oui, régulièrement. Effectivement, environ 6 par jour à peu près.
Et est-ce que vous délivrez des arrêts de travail par téléconsultation?
Oui, ça peut m'arriver assez régulièrement d'ailleurs. Ça dépend du motif. Et après, la durée dépend aussi du motif. Mais oui, je ne vois pas pourquoi la téléconsultation ne pourrait pas nous permettre de délivrer des arrêts de travail, puisque comme son nom l'indique, c'est une consultation. C'est un super outil en fait qui s'est vraiment développé avec le Covid. Au début, j'étais assez sceptique sur sa mise en place parce que pas d'examen clinique, des patients potentiellement qu'on ne connaît pas, etc. Et en fait, finalement, c'est à nous en fait de faire un interrogatoire un petit peu précis, et ensuite on est quand même dans une consultation, donc on a un contrat de confiance avec la personne avec qui on a en face, et donc c'est à nous de juger. Après, personnellement, je ne vais jamais donner un mois sur une téléconsultation. Quelqu'un qui vient pour un arrêt de travail, pour une gastro-entérite ou quelque chose comme ça, ça entre 1 et 3 jours et pas plus. Et si besoin, ensuite, ils vont pouvoir consulter leur médecin traitant pour une prolongation si besoin. Je pense qu'il faut juste une régulation au niveau des interfaces de téléconsultation, peut-être pour limiter le nombre de consultations et ensuite limiter la durée des arrêts de travail qui pourraient être possibles en téléconsultation. Je pense qu'il est là.
Mais après, Jean-Jacques, apparemment, il est très facile sur Internet de trouver toutes les caractéristiques d'une maladie. Donc, si par exemple, j'ai envie de vous gruger, je vais aller sur symptômes de la grippe, et je vous dis, j'ai 39 de fièvre, je suis vraiment pas bien. Vous êtes pas là pour prendre ma température. Donc, en fait, je peux vous dire, ah, puis j'ai mal à cet endroit-là du ventre, etc., parce que j'ai tout lu sur Internet. Et c'est moins facile pour vous, je pense, de contrôler par téléconsultation que de visu. Vous allez me dire, non, madame, vous avez 36,8, hein, vous avez pas du tout 40, quoi.
Oui, mais si vous avez pris un dolip, prenez une demi-heure avant, c'est possible. En fait, en consultation aussi, on peut tricher assez facilement. Des gens qui viennent pour des problèmes de dos, j'appuie la aille, bon, ben, a priori, il a mal. C'est toujours... En fait, on est dans un contrat de confiance. Donc, c'est soit on remet en cause la téléconsultation, soit c'est une consultation comme une autre, et donc il faut lui mettre des limites. Donc, par exemple, 3 jours, 4 jours maximum, je ne sais pas, et lui mettre un nombre de téléconsultations possibles. Ils avaient mis ça initialement. On avait le droit d'aller voir que son médecin traitant en téléconsultation. S'il avait été vu dans les 12 derniers mois, ça a sauté avec le Covid. Peut-être que c'est plutôt ce genre de choses qu'il faudrait remettre en place plutôt que cette règle qui arrive.
Jean-Jacques, est-ce que vous avez déjà eu la sensation que vous étiez en train d'essayer de vous faire gruger par un patient?
Oui. Oui, oui, mais même parfois en présentiel. Je n'ai pas besoin d'une téléconsultation pour ça, mais oui, si, ça arrive. Mais dans ces cas-là, on refuse.
C'est ça, en fait, ça ne change rien.
La téléconsultation est faite. S'il va voir quelqu'un d'autre, même si c'est en présentiel, il y aura quand même une consultation de régler et ça aura un coût. Alors oui, il n'y aura peut-être pas de délivrance d'arrêt de travail, mais dans tous les cas, et mon confrère tout à l'heure avait raison, c'est qu'il y a un problème sur le consumérisme médical. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet.
Eh ben merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir été avec nous, médecin généraliste à Bordeaux. Kevin nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Kevin.
Bonjour. Alors, me concernant, moi je trouve ça assez scandaleux de vouloir supprimer les arrêts maladie en téléconsultation. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que sur une des plus grosses plateformes care, le maximum qu'on puisse être en arrêt maladie, c'est 3 jours. Il ne faut pas oublier que pendant les 3 jours-là, dans le privé, sauf convention collective plus favorable, on n'est pas payé. Donc c'est pas pour le plaisir. Et si on fait une téléconsultation à 22h, c'est peut-être qu'on a un souci, que si on peut pas faire de téléconsultation, on va aller aux urgences. Donc ça va encombrer les urgences, ça va coûter encore plus cher à la sécurité sociale. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en Alsace-Moselle, il n'y a pas de jour de carence, et pour autant, la caisse n'est pas déficitaire. Donc d'accord, je pense que ça n'a rien à voir, et qu'il ne faut pas penser que tout le monde fraude, que tout le monde est des fraudeurs. Non, si on téléconsulte, c'est qu'il y a une raison, en fait, tout simplement.
Oui, mais alors le problème, Kevin, ce que vous dites, c'est frappé du coin du bon sens, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression, en écoutant les médecins, qu'il y a aussi des professionnels de la gruge, et finalement, à cause d'eux, il va y avoir un projet de loi, mais ça doit être quand même une minorité. Péricot, on a du mal à croire que tous les Français vont gruger un arrêt de travail en téléconsultation.
Il y a des comportements sociologiques territoriaux. Les gens du Nord et de l'Est sont des gens plus sérieux, plus rigoureux, plus respectueux.
Je crois que vous allez dire une horreur, là.
Oui, je vais dire une horreur. Il y a des comportements différents selon les territoires français, pas que là-dessus.
D'accord.
Bon, je fais
quel territoire, donc ?
L'Alsace, c'est des gens très rigoureux, respectueux de la loi, de la limitation.
Et qui n'est pas rigoureux ?
D'autres, plus méridionaux.
Plus c'est latin, moins c'est rigoureux, voilà, plus c'est proche de la Suisse et de l'Allemagne, moins c'est rigoureux.
Non, c'est pas des clichés, c'est des réalités.
Il y a
un clientélisme médical abusif, monstrueux, scandaleux, et il y a des régions où il n'y a pas de clientélisme abusif. Voilà. Ça, c'est une réalité territoriale.
Jean Blavrieux.
Non, mais on peut se mettre d'accord. Si une personne appelle trois médecins différents dans la même journée, pour le même motif, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui m'empêche d'aller au travail.
Tu mets pas le motif sur Doctolib. Hein.
Mais non, mais normalement, si le premier médecin qui dit non, je ne vous donne pas d'arrêt maladie, ça doit apparaître comme dire il peut pas avoir d'arrêt maladie.
Voilà.
Sinon, ça veut dire qu'on a affaire à un mauvais médecin.
Oui, d'accord, mais moi, par exemple, imagine, je suis en jour de congé et je me dis, tiens, je vais faire tous mes rendez-vous médicaux aujourd'hui. Ben, je peux très bien appeler mon généraliste en téléconsultation à 10h. Oui. Je peux appeler mon gynéco à midi. Je peux appeler mon ORL parce que j'ai des allergies à 14h. Et je peux appeler mon gastro parce que j'ai quand même un petit peu mal au ventre à 16h.
Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que
je pense qu'il faut à ce moment-là que tu ailles vraiment voir quelqu'un parce que si tu as trois types de symptômes différents.
Mais je peux avoir mal au ventre et mal à l'oreille. Hein, excuse-moi.
Qui justifient tous un arrêt de travail, c'est que la situation est en train de se dégrader.
Oui, le problème, c'est que tu ne demandes pas la téléconsultation uniquement pour les arrêts de travail. Tu le demandes aussi, ça m'est déjà arrivé, pour un renouvellement d'orthodontiste.
Je ne suis pas pour interdire la téléconsultation, mais en ce qui concerne les arrêts de travail, si le motif que tu donnes, c'est toi qui choisis le motif que tu donnes au médecin, et que le médecin te dit « Je suis désolé, monsieur, ça ne justifie pas un arrêt de travail. Basta, c'est terminé. »
Ce qu'on est en train de dire, c'est que la Sécu n'a pas des ordinateurs assez puissants, en fait. C'est
le logiciel de la Sécu devrait être au point, comme un carnet de santé. On l'a sur toutes les autres administrations. Et là, on peut avoir de l'abus. On peut faire 15 consultations. À chaque fois, on va payer 22, 25, 32. C'est nous, le contribuable, qui payons. Et ça passe à l'as. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est honteux. Et je ne comprends pas comment on a pu attendre autant de temps pour en arriver là. Finalement, on va supprimer cette mesure qui est abusive.
Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Kevin, notre auditeur, est employé à la Sécurité sociale. Kevin, je suis désolée, mais on a l'impression que tout ça, c'est un peu de votre faute. Enfin, pas votre faute à vous, mais un peu de la faute de la Sécu.
Non, c'est vrai que les logiciels sont pas du tout modernes. Ça,
vous n'êtes pas aidé, hein, on le sait. Hein.
Mais j'aime pas du tout le discours de Péricot qui monte les gens les uns contre les autres, des territoires contre les autres territoires ou contre les salariés, les indépendants. Non, c'est pas vrai dans les chiffres. Ce qu'il dit, c'est pas du tout vrai. Il n'y a pas plus de feignantise dans le sud de la France que dans le nord ou que
c'est
dans l'est.
C'est pas ce que j'ai dit exactement. Non. J'ai dit qu'il y a des comportements différents selon les sociologues.
Et ce qui est vrai, Kevin, c'est qu'il y a 3 jours d'arrêt maladie en moyenne pour les indépendants contre 15 jours pour les fonctionnaires. Donc en fait, on voit bien que en fait, quand vous êtes indépendant et que vous pouvez pas vous arrêter parce que vous n'avez pas de salaire, bah vous arrêtez moins que quelqu'un qui va être remboursé par son entreprise.
Voilà. Il faut pas voir le côté négatif, mais il faut voir le côté positif en protégeant tous les salariés et ça se fait en tous les salariés et même les indépendants, pourquoi pas. Ça se fait en Alsace-Moselle pour tous les salariés et c'est pas déficitaire. Donc, comme quoi, si on a un système qui est plus avantageux, et ben les gens ils vont ça va les inciter à être peut-être plus honnêtes et tout le monde va jouer le jeu et ça va très bien se passer comme dans les régions là-bas. Et c'est pas une question de comportement, pas du tout.
Bah merci beaucoup Kevin en tout cas d'avoir été avec nous au 32-16. Alors c'est un sujet qui fait débat, tout le monde n'est pas d'accord. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Arrêter les arrêts maladie par téléconsultation, est-ce que c'est scandaleux, Thibault ?
Non, pour 55% d'entre vous, vous êtes 45% à penser que oui. Beaucoup notamment sur Direct Studio nous parlent du manque de médecins traitants.
Bah oui, c'est ça.
Il est de plus en plus difficile à trouver, que ce soit dans les zones rurales comme dans les zones citadines.
Dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC, on va parler de l'insécurité grandissante en France avec un fait divers particulièrement sordide à Nantes. On parlera de Julien Bayou, tiens, qui a démissionné de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et puis la victoire du parti d'extrême droite en Italie. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
13h30 sur RMC, RMC Story, et c'est le moment du meilleur d'RMC, le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
Le zapping RMC.
Et on va commenter le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures avec Thibaut Texer, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. On va commencer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. L'insécurité est grandissante en France, en particulier à Nantes, où une femme de 40 ans s'est faite violer en pleine rue en rentrant chez elle samedi soir. Face à cette montée de la violence, faut-il se faire justice soi-même ? Olivia, une restauratrice nantaise depuis 2004, a trouvé une solution. Elle a équipé ses employés de bombes lacrymogènes et de porte-clés alarme.
Depuis une dizaine d'années et plutôt 5 ans, vraiment, la ville est devenue un terrain de violence et d'agression envers toutes sortes de populations, et y compris notre personnel. J'ai mis en place une certaine chose, c'est-à-dire équiper tout mon personnel de bombes lacrymogènes, de faire des cours de self-défense et un petit porte-clés alarme qui fait 90 décibels de façon à alerter. On a été victime en fait de 3 agressions en une semaine, moi-même personnellement pour une soirée et pour le reste de mes employés les 2 autres jours dont j'étais présente le 3e jour également. Je me suis fait coincer par un individu avec une patinette électrique. Ouais. Et du coup j'ai été agressée verbalement.
Alors c'est assez hallucinant ce qui se passe à Nantes, Perico Légas, parce que c'était une ville réputée plutôt tranquille jusqu'à l'année dernière, et là il y a une explosion de violence.
Et maintenant Nantes viole en plein jour, c'est-à-dire...
Non, c'était le soir, la dame rentrait chez elle.
L'agression en plein jour, on l'avait vu à Cannes la dernière fois.
Ouais, à Paris aussi, ouais.
Ça veut dire que le sentiment, la délinquance existera toujours, les brigands, les voleurs, et j'allais dire les criminels existeront toujours. Ça veut dire que le sentiment d'impunité dans ce pays est chaque jour... plus libre, croissant. C'est-à-dire que les gens qui sont prêts savent qu'ils peuvent le faire, que la sanction sera relative, qu'ils ont peu de chances de se faire avoir. S'ils sont attrapés, ils seront relâchés. Je veux dire, là aujourd'hui, il y a une déliquescence de l'autorité publique dans cette République française, au point qu'on est dans une situation de Far West. On a un ministre de l'Intérieur qui passe pour quelqu'un d'autoritaire, un président de la République qui a l'air conscient et soucieux, des premiers ministres qui ont toujours dit « c'est pas vrai ». C'est pas vrai, c'est dangereux de vivre en France. Aujourd'hui, il y a des endroits.
Tu peux pas dire ça, Perico. Enfin, t'as d'autres pays où c'est quand même plus dangereux.
J'ai pas dit qu'il était dangereux de vivre tous les jours, toutes les 5 minutes, partout en France.
C'est ce que tu viens de dire,
en France. Je vous dis aujourd'hui, car alors on va préciser nos pensées. Il y a aujourd'hui des endroits en France, à certains moments de la journée, ou dans certains endroits où il est dangereux de vivre en France. Cette femme n'aurait pas dû subir ça.
Mais bien sûr.
Voilà. Et tout ce qu'on entend, et encore là, on entend ça parce que c'est la plus spectaculaire.
Non, on entend quasiment tous les
D'accord.
jours en ce moment.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Là, j'en interpelle tout parti politique confondu. Il se passe quoi? Vous voulez quoi? Vous savez comment ça va se terminer? Les gens vont avoir un comportement électoral un jour qui sera excessif par rapport à ce qui se passe, mais on le cherche. Et là, je comprends pas la démission de la classe politique. C'est une capitulation.
Ils ont été arrêtés, hein.
Mais bien sûr.
Et puis, c'était 3 hommes, ils ont été arrêtés.
Voilà. Et puis, pour ceux qui ont été arrêtés, ceux qui n'ont pas été arrêtés, ceux qui sont arrêtés pour moins que ça et qui sont relâchés, il faut voir dans quel état les policiers français qui font leur devoir de façon exemplaire, même si de temps en temps il y a une bavure, sont dépités. Voilà. Et ensuite, la magistrature, évidemment, qui passe derrière et qui ne peut pas résoudre le problème non plus. Et le problème des prisons. Voilà.
Alors, je voudrais revenir sur Nantes, qui est une ville que je connais vraiment très, très bien. Et pendant 20 ans, Nantes, Rennes et Dijon se battaient à la tête du classement des villes où ils faisaient meilleur vivre en France. Et notamment pour des raisons de sécurité. Et Angers, qui est dans le 4e, ouais. Et pour des raisons de sécurité. Et là, quand je vois ce qui arrive à Nantes, je dis que cette ville a bien changé. Et qu'en même temps, c'est pas se faire justice soi-même que d'équiper ses salariés pour qu'ils puissent se défendre. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me choque, mais c'est quelque chose qui m'attriste parce qu'on en arrive là. Moi, je suis dans une ville où ça se passe encore pas trop mal, mais je me dis, si ça arrive à Nantes, ça va arriver partout, quoi. Enfin, qui était une ville quand même où il faisait très très bon vivre. C'est symbolique que ce soit Nantes. Hein.
On met des caméras.
Jérôme Lavrieux, ça vous étonne, cette explosion de violence? Et c'est vrai que par rapport au viol, là, il y a des affaires quasiment tous les 2 jours. Ouais. On entend parler de jeunes femmes ou de femmes qui rentrent chez elles à pied après une soirée et qui se font agresser de manière extraordinairement violente, quoi. Et on a l'impression que c'était moins le cas avant, quand même.
Mais parce qu'en fait, Perico nous parlait des délinquants, avec tous les guillemets qui s'imposent, dits traditionnels. Mmh. J'aime bien la tradition. Mais en fait, là, on a affaire à un nouveau public. On a dit qu'ils ont été arrêtés.
Oui.
On a dit un peu plus aussi, si j'ai bien suivi, c'est que c'était des gens d'origine soudanaise.
Oui. Et qui avaient un titre de séjour.
Qui avaient un titre de séjour.
Mais 2 étaient connus du service de police.
Ils n'ont rien à foutre là.
Ils ont un titre de séjour valable, tu veux faire quoi?
Mais comment peut-on avoir un titre de séjour valable alors qu'on est déjà connu des services de police?
Ah, alors c'est parce que tu sais quand même que c'est difficile aujourd'hui d'expulser.
Mais non, c'est une autre chose. Comment peut-on continuer à toujours avoir un titre de séjour valable alors qu'on n'a pas respecté le contrat qui a été fait quand on a accordé un titre de séjour?
Parce que tu ne peux pas expulser. Là, la question.
Au moins, ils ne devraient pas avoir de titre de séjour valable. Je suis désolé, s'ils sont connus par la police, leur place.
Mais comme
elle
est, tu ne pourras pas les expulser.
Mais leur place, elle est en CRA, centre de reconduction administrative. De rétention administrative. Leur place, elle est là. Elle n'est pas dans la rue à se comporter, peut-être comme au Soudan, comme ailleurs, j'en sais rien, mais on est à Nantes. Et on fait, ça ne se fait pas, je suis désolé de le dire. On ne peut pas se comporter comme ça.
Aujourd'hui,
on
c'est a affaire eux à un euro public. On ne se comporte pas comme ça non plus au Soudan, tu vois. Enfin, je veux dire, Ils n'ont rien à faire en France.
Il a été donné par des gens qui ne sont pas responsables. Il n'est pas valable, ce type de séjour. Les fonctionnaires qui l'ont donné ont commis une faute.
Ça, on est d'accord. Aujourd'hui, mais à partir du moment où ils ont un titre de séjour valable, qu'est-ce que tu veux faire?
Connu par les services de police.
Oui, d'accord. Pour deux d'entre eux.
Aujourd'hui, c'est eux, et puis d'autres fois, ce sera des Français. Enfin, le problème sera tout autre.
Non, je crois qu'on
en est sur l'insécurité quand même dans les villes.
Non, je pense que si on n'analyse pas l'origine des phénomènes de délinquance, on a un sujet. On a un vrai sujet. Si on ne le fait pas, on a un vrai sujet. Et ce sujet-là est en train de monter dans la société. Et si on ne veut pas le voir, un jour, il sera trop tard. Et je pense que les gens responsables et raisonnables doivent le traiter en priorité. Ne pas laisser à des gens irresponsables et déraisonnables un jour à avoir à le traiter.
Les grandes gueules ce matin. La gauche est empêtrée jusqu'au cou dans les affaires de violence faites aux femmes. Ce week-end, Julien Bayou a démissionné de ses fonctions de secrétaire national Europe Écologie Les Verts. Et selon Barbara Lefebvre, ce déballage public n'est qu'un règlement de compte entre les membres d'Europe Écologie Les Verts, justement.
Non, on s'en fout pas parce que concernant Julien Bayou, ça ne repose sur aucune plainte, aucun dépôt de main courante. Ça repose sur la confidence qu'une ex-compagne fait à une concurrente politique à l'intérieur du mouvement Europe Écologie Les Verts qui s'appelle Sandrine Rousseau et qui se permet de venir raconter ça en public. Donc j'entendais ce matin Karim Adeli, je crois, qui expliquait qu'il y avait une enquête en cours dans leur truc de comité interne, je sais pas quoi, et que ce comité interne n'avait pas rendu ses conclusions et qu'il aurait mieux valu attendre les conclusions de leur comité interne. C'est compliqué, certes, mais en tout cas, oui, au minimum, qu'en interne, ils aient déjà réglé la chose, cette forme de déballage. Moi, je pense que c'est surtout des règlements de compte au sein d'Écologie Les Verts.
Emmanuel Dancourt, est-ce que Julien Bayou a bien fait de démissionner? Il a envoyé un communiqué ce matin en disant que de toute façon, en fait, il n'était pas audible et qu'il ne comprenait pas pourquoi il était mis en cause, mais de toute façon, il n'était pas audible sur ce sujet, donc il préférait démissionner.
Ça dépend de quoi on parle. Lui,
personne ne sait de quoi on parle.
Non, mais c'est pour ça que c'est un peu touchy.
Ça lui doit savoir.
Il y a la justice et puis il y a la morale. Et que ce soit son affaire à lui ou l'affaire d'Adrien Quatennens, moi, ce qui me gêne là-dedans...
Adrien Quatennens, c'est un délit. C'est pas que la morale.
Tout à fait. Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est malgré tout aussi la morale. Le fait qu'il n'ait pas démissionné de son mandat de député, moi, ça me choque. J'ai mis du temps à me faire un avis dessus, mais j'ai passé tout le week-end. Mais au final, ça me choque quand même parce que je me dis, c'est quand même des gens qui sont censés nous représenter. Et moi, pardon, je suis peut-être idéaliste, mais j'attends une exemplarité quand même de mes représentants, que ce soit mon député ou pas. Donc, je suis vraiment. Enfin, moi, je trouve que Sandrine Rousseau a eu raison de parler. T'es pas d'accord, tu le diras. Mais je trouve qu'elle a eu raison de parler, dire. Mais bien sûr que t'as le droit, je vais pas te bouffer. Mais qu'elle a eu raison de parler et de dire les choses que l'on sait.
Mais
si non, on fait pas.
Mais en fait, le problème, c'est qu'elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit.
Oh, bah, elle a dit quand même beaucoup de choses.
Non,
elle a parlé de la compagne de Julien Bayou qui, quand même, est venue la voir, lui a raconté ce qu'elle avait subi et cette femme a fait une tentative de suicide après. Enfin, c'est quand même vachement.
Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit j'ai reçu l'ex-compagne de Julien Bayou qui était en détresse psychologique, qui a fait une tentative de suicide. Mais on ne sait pas. Pourquoi aujourd'hui Julien Bayou dit personne ne me reproche quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. Donc en fait personne ne sait.
Donc aujourd'hui on écoute plus lui que
non,
la victime
pas du tout.
En
non,
fait.
Pas du tout.
Le problème.
Mais en fait on ne sait pas.
On écoute personne, on regarde les faits. Parce qu'on est dans un état de droit.
Attendons de savoir ce que les faits donnent.
Voilà, on y arrive.
Non mais.
C'est différent.
Moi je trouve qu'elle a eu raison. Non, je trouve qu'elle a raison de le dire et qu'elle a raison de sortir.
Mais il y a l'empreinte de quoi il s'agit.
Non. Je l'ai vu en direct.
Une tentative de suicide.
Je l'ai vu en direct quand elle a dit ça. Premier réflexe.
Je l'ai vu aussi.
Pour moi, j'ai été un élu. c'était de me dire, elle nous dit qu'elle a reçu une personne
allez,
qui lui dit
les hommes
ça
se protègent entre eux. Vas-y, vas-y, Jérôme. Voilà. Les hommes se protègent entre eux, on se tient les couilles. Allez, vas-y, je t'écoute.
Oui, oui.
Bon, moi, je dis rien, parce que alors là.
Non, Emmanuel, tu peux pas dire.
Ah, vas-y, vas-y.
Non, non, mais c'est beaucoup ça. C'est à quoi on l'assiste en ce moment.
Tu réfléchiras à ce que tu viens de me dire.
Excuse-moi.
Et tu trouveras
que c'est dans l'affaire Quatennens-Mélenchon, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, je suis remontée comme un coucou.
Justement, on fait la différence.
Adrien Quatennens, c'est ça tombe sous le coup de la mesure.
Je ne parle pas de Quatennens. A reconnu quelque chose de délictuel.
Ouais.
Je suis bien placé pour le savoir. Dans ma vie, j'ai eu malheureusement le courage de reconnaître, ce qui n'a rien à voir avec tout ça. Hein,
oui, bien sûr, évidemment.
De reconnaître quelque chose de délictuel et j'en ai assumé toutes les conséquences. D'accord ? Là, on a une personne qui est en concurrence politique avec une autre, qui va sur un plateau télé et qui dit « J'ai reçu sa compagne, une de ses compagnes, dit-elle, qui est venue me dire qu'elle avait un problème avec lui ».
Donc, tu penses que c'est un règlement,
non,
qu'elle
non,
était en détresse.
Elle allait pas bien, elle était en détresse. Et elle dit, comme ça, avec un sourire, d'ailleurs, je crois que 3 semaines après, elle a fait une tentative de suicide. Moi, je suis désolé, elle est élue de la République. Si elle reçoit quelqu'un qui ne va pas bien, qui lui parle de faits délictuels, les pressions morales, le harcèlement
et
moral, etc., c'est délictuel. Elle a une obligation, sur le moment, à l'issue de son entretien, de faire un article 40. De transmettre le signalement au procureur de la République.
Elle
n'est pas, non, elle n'est pas experte, elle n'est pas juge, elle n'est pas conseillère conjugale, elle n'est rien du tout.
Elle est lanceuse d'alerte.
Non, la lanceuse d'alerte, il appelle le procureur de la République, il dit « je viens de voir quelqu'un qui est en danger, peut-être en danger de mort de se suicider ». Il prévient le procureur, qui déclenche tout le reste après. Et là, elle vient nous dire 6 mois, 1 an, je ne sais pas, après, j'ai reçu quelqu'un, puis bon, je sais qu'elle a fait une tentative de suicide.
Émission de grande écoute.
Je pense que c'est un règlement de compte
une émission
de partie.
C'est,
pas,
c'est, ah, c'est mieux que ça.
C'est parce qu'il non, dit, non, je lui pose la question.
Non,
je
sais
Emmanuel,
pas.
Est-ce qu'il pense que c'est un règlement de compte.
On ne sait pas de quoi il s'agit.
C'est
pas un règlement de compte.
Sa propre justice, avec ses propres règles, avec ses propres comités secrets qui se réunissent, on ne sait pas s'ils ont entendu ou pas entendu. Souffrait que peut-être cette personne, peut-être, n'est pas responsable de ce que sous-entend sa concurrente politique.
C'est même
le seul
pas.
Qui peut le dire à la fin, c'est le juge.
Oui, et après, aujourd'hui.
On l'a même pas entendu, elle.
Contrairement à Adrien Quatennens, qui a effectivement reconnu une
vie
qui est un délit, lui aujourd'hui, Julien Bayou. Dire il y a pas de plainte contre Julien Bayou, il y a pas de main courante. Et aujourd'hui, en fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Eh bien, tout ce qu'on sait, c'est que manifestement, son ex-compagne est en détresse psychologique et qu'effectivement, elle a fait une tentative de suicide, qui est évidemment extrêmement grave. Mais on ne sait rien d'autre, Emmanuel.
C'est 1793.
Comité de salut public.
Comité de salut public, très bien révolutionnaire. Les sans-culottes. Alors, il y avait des aristos salauds. Heureusement qu'il y a eu des sans-culottes pour dénoncer des gens qui avaient abusé, qui avaient exploité le peuple, qui étaient des complices de cette monarchie épouvantable. Heureusement qu'il y avait un tribunal révolutionnaire. Dans l'ensemble, on a aussi envoyé la guillotine. Beaucoup de gens, un peu précipitamment, un peu sur la médique populaire, un peu sur la désignation, avec des tribunaux qui duraient 2 minutes et qui disaient de façon médiatique, hop, citoyen, tu as dit, il paraît que tu as dit que
Tu veux dire, c'est l'époque qui veut ça, en fait. C'est ça que tu essayes de nous dire.
Je pense que Sandrine Rousseau est en train d'appliquer un principe de nettoyage politique. Elle est en train de dégager tous ses concurrents. Elle a très mal vécu son élimination à la première écologiste. Elle est en train de dégager tout ce qu'elle peut dégager comme rivaux potentiel. Elle le fait bien. Elle est forte. Ce sera une grande présidente de la République. On aura l'italienne et on aura Sandrine Rousseau. Si un jour l'histoire fait ça. Voilà.
Péricot, t'es obligé d'attendre. Il y a une enquête sur Julien Bayou.
D'accord.
En fait, t'es obligé d'attendre.
Je constate la formule, le protocole, la procédure. C'est ça, la gauche? C'est ça, l'écologie? C'est cette façon de faire, de montrer, jeter en pâture, comme ça, en émission de grande écoute. C'est ça, mais ils sont fous, ils ont déjà
mais
pas
s'il
tellement...
Mais s'il a commis quelque chose de délictuel, tu fais quoi?
Mais les gens compétents pour le décider le diront, et pas une émission de télé de grande écoute avec une parlementaire qui décrète qu'elle a déduit que le suicide était... Elle a peut-être totalement raison, je ne mets pas en cause. Je dis sur la façon de faire, au nom de la République, des valeurs démocratiques, elle est représentante du peuple lui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sans-culotte et le tribunal révolutionnaire.
Lui, pour toi, il n'a pas eu raison de démissionner. Comment tu veux qu'il soit audible aujourd'hui?
Son communiqué est édifiant. Il a dit, voilà, je n'ai pas le contenu exact de ce qui m'est reproché. Je ne peux pas me défendre, et si je me défends, je vais aggraver la chose, et je vais en plus compromettre mon parti qui est déjà tout touché, donc je me retire. Voilà. C'est ça la démocratie.
Et tu veux pas croire que c'est de la maladresse éventuellement de s'en
Je veux m'assurer que c'est pas d'injustice, et que tout est vrai, et que tout est assuré. Si c'est pas le cas, c'est la démocratie qui est malade. Très malade. Je veux que tout ça soit juste, soit légal, soit pensé, soit cohérent, respecte la personne humaine, qu'il y ait à la fois de la morale et du droit. Là, je n'y vois rien de tout ça. Je vois une invective, une injonction, un anathème et des têtes qui tombent. Voilà. Ben, continuez. Hein. Pour l'instant, dans le camp adverse, il y a pas de problème. Autodestruction. J'ai jamais vu l'opération de suicide. Moi, je crois en ces valeurs. C'est ma sensibilité politique. De voir ces gens, qui pour moi incarnent plutôt l'humanisme, la tolérance, le partage, la fraternité, se dénoncer comme sous Mao ou sous Staline, du doigt et faire tomber les têtes.
Ils dénoncent parce que pour eux, il y a eu des faits très graves.
Nous sommes en République française. Je te jure qu'en République française, il y a des protocoles, il y a des procédures, il y a des institutions qui sont là et qui l'ont fait très bien et qui ont montré qu'elles étaient sans pitié. Oui. Et grâce au combat féministe, les tolérances et les laxismes et les silences sont tus. Et MeToo a fait un travail exceptionnel. Ne basculons pas dans un acte de liberté, d'émancipation de la femme et de conquête de la liberté. Ne basculons pas dans un totalitarisme qui va salir la cause des femmes.
D'accord, mais enfin, l'émancipation des femmes, elle est nécessaire. Et la parole
elle est urgente.
Libère, elle est nécessaire.
Mais là,
aussi.
On n'émancipe rien du tout.
À force de faire ça, on va tuer tout ça.
Évidemment.
À force de se comporter comme ça, je vous le dis.
C'est mortel.
Moi, je veux rappeler un problème de truc. C'est qu'il y a une constitution dans ce pays. C'est que... on est présumé innocent tant qu'on n'a pas été déclaré coupable. Et
quand la présomption d'innocence, on va en reparler.
Quand il y a un procès, quand il y a un doute, le bénéfice du doute, il profite toujours à l'accusé.
Et c'est pour ça qu'on passe à la présomption de culpabilité avec MeToo et qu'on arrête avec cette présomption d'innocence. Parce que ça va toujours dans le sens de celui qui est accusé. Nous, on voudrait aller sur ce qui se passe dans d'autres pays et qu'on soit sur la présomption de culpabilité.
La présomption de culpabilité, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de retour en arrière.
Toi, tu as décidé que ça ne marche pas. Ça marche dans plein de pays, Jérôme. D'un seul coup, ça ne marche pas parce que tu l'as décidé. C'est n'importe quoi.
La présomption de culpabilité, c'est la guillotine pour celui qui peut en être. Oui, parce qu'il est arrivé qu'on guillotine plein de coupables, mais il est arrivé qu'on guillotine des gens qui n'avaient pas fait ce qu'on leur avait
demandé. Arrêtez, mais on met deux siècles ou trois siècles en arrière. On est aujourd'hui, là, en 2022.
Je suis désolé de le dire pour des grands
erreurs judiciaires.
C'est le principe de notre justice. C'est qu'elle doit pas.
Quand la justice est injuste, on ne peut pas la faire changer. Les Espagnols, ils sont incroyables. Les Canadiens, ils sont incroyables.
Mais là, cette affaire n'est pas devant la justice.
Elle n'est pas devant la justice.
Ça, on est d'accord. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Je parlais juste de la présomption d'innocence.
Non, pas encore être trop.
La présomption d'innocence est une notion juridique. Tu ne peux pas l'utiliser s'il n'y a pas de justice. Donc tu ne peux pas l'utiliser.
Mais là, il n'y a pas de notion juridique.
Arrête de parler de présomption d'innocence parce qu'il n'y a pas d'affaire.
Mais c'est une notion juridique. Il n'y a pas d'affaire.
Mais qu'on nous dise ce qu'il a fait.
On ne parle ni de l'un ni de l'autre.
Mais qu'on nous dise ce qu'il a fait.
On ne parle ni de l'un ni de l'autre.
Qu'on nous dise ce qu'il a fait.
D'accord. Non, mais on est tous d'accord là-dessus.
On a le droit de parler. Comme ça, il n'y aura pas de problème, ce sera un monologue.
La présomption d'innocence, pas d'affaire en même temps.
Je veux juste dire qu'il y a une obligation de prise en compte de la parole immédiate de tout le monde par la justice. Ça, c'est obligatoire, ça ne s'est jamais fait auparavant. Les choses sont en train de changer, c'est bien. Et une fois que ça se fait dans ce domaine-là, on doit laisser les choses se faire. Mais on ne peut pas livrer un jour en pâture le nom de quelqu'un ou de quelqu'un.
On doit laisser les choses se faire. Dans l'affaire PPDA, si on avait laissé les choses se faire, il ne se passerait rien. On a été obligé de monter au combat, on a été obligé de monter au créneau. On est 30 à aller à la police, on est encore 90 qui n'y sont pas allés. Donc on est en train de faire changer la justice. Oui, mais on ne peut pas laisser la justice faire. La justice, elle a été complètement dépassée par notre cas. Elle ne savait pas faire.
En humanisme français, on préférera toujours, quoi qu'il advienne, quel que soit le sort de cet univers, un innocent. Enfin, on préférera toujours un criminel en liberté.
Un innocent en prison, bah oui.
En tout cas, bah, on ne réglera pas le problème en 5 minutes. Mais de toute façon, je pense qu'on devrait savoir quand même bientôt de quoi est accusé Julien Bayou, parce qu'il dit qu'il prépare sa défense, justement, en se mettant en retrait d'Europe Écologie Les Verts. Dans un instant, RMC s'engage pour vous avec des révélations concernant l'affaire des implants contraceptifs de chez Bayer. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. Et ça revient sur le devant de la scène. On vous explique tout dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h53, vous êtes sur RMC, RMC Story. On va parler conso, on va parler augmentation, quel bonheur, avec Stéphane Pedradi.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Stéphane Pedradi avec nous, bien sûr, dans Estelle Midi. Et aujourd'hui, Stéphane, nous allons parler augmentation de salaire. Vous allez nous donner plein de trucs et astuces pour pouvoir nous faire augmenter. C'est sympa de votre part.
Et oui, la question, c'est de combien est-ce qu'on va être augmenté l'année prochaine? Alors, si vous êtes payé au SMIC comme environ 13% des salariés en France, votre salaire est automatiquement indexé sur l'inflation. Cette année, il a déjà augmenté à 3 reprises. Plus 0,9% en janvier, plus 2,65% au mois de mai et plus 2% au mois d'août. En revanche, si
on
vous
n'êtes pas payé... On est d'accord que c'est pas rétroactif. C'est-à-dire que si y a une déflation, on ne baisse pas le salaire.
Non, le SMIC ne recule pas. Il ne peut qu'augmenter. C'est une bonne nouvelle. En revanche, si vous n'êtes pas payé au SMIC, la hausse n'est pas automatique. Et d'ailleurs, ça pose problème pour les personnes qui sont payées un tout petit peu plus que le SMIC, 100, 200 euros au-dessus, puisque cette catégorie de salariés se fait rattraper par le bas chaque fois que le SMIC augmente, ce qui leur donne l'impression de s'appauvrir et ce qui donne aussi un sentiment de déclassement social. Alors, à quoi s'attendre pour l'année prochaine? La bonne nouvelle, c'est que les prévisions ont été revues à la hausse plusieurs fois pour tenir compte de l'inflation. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l'augmentation prévue est de 4,3%. Je précise bien, c'est une moyenne, elle a été calculée par le groupe Alixio. C'est un cabinet de conseil en stratégie et comme dans toutes les moyennes, il y a des écarts. Pour environ un tiers des entreprises, les hausses de salaire seront comprises entre 3 et 4% l'année prochaine. Certaines seront beaucoup plus généreuses avec des hausses de salaire qui vont dépasser les 6%. Et ça n'est pas qu'anecdotique, hein. Ça sera le cas dans près d'une entreprise sur 8, plus de 6% d'augmentation.
Ça concerne RMC, vous êtes renseigné?
Alors j'ai le listing, donnez-moi vos noms.
Alors est-ce qu'on sait, Stéphane, si les hausses de salaire concerneront plutôt les cadres ou plutôt les faibles revenus?
Alors on a des indications. Les cadres auront droit à une augmentation moyenne, encore une fois, de 3,4%, donc pratiquement un point en dessous de la hausse générale qui est prévue. Donc ce ne sont pas les plus riches, a priori, qui auront droit aux plus grosses augmentations. Après, tout dépend de votre secteur d'activité. Ce sera évidemment plus facile d'obtenir une augmentation si vous travaillez dans un secteur où on manque de main-d'œuvre. Le cabinet américain WeTV a fait quelques recherches. Un responsable fabrication dans la pharmacie peut espérer 25% d'augmentation l'année prochaine. Un directeur comptable, c'est le métier le plus sexy du monde, plus 16%. Sans compter évidemment tous les métiers de la tech, on manque de développeurs et on sait que ces gens-là sont en position de force pour aller négocier une augmentation.
Alors, si on veut réclamer une augmentation à son patron, c'est pas toujours facile, on n'est pas toujours à l'aise avec ça. Comment est-ce qu'on fait pour bien négocier justement?
Alors, il faut dissocier négociations collectives, vous savez que désormais elles sont obligatoires, ça s'appelle les NAO, négociations annuelles obligatoires, et les négociations individuelles que vous pouvez tenter si vous estimez que vous n'êtes pas assez payé. Alors, les conseils des spécialistes. D'abord, situer votre salaire actuel, savoir si vous êtes bien situé, mal situé par rapport à la moyenne des postes équivalents au vôtre. Ce sera évidemment plus difficile d'obtenir une augmentation si vous êtes déjà au-dessus. Avoir un minimum d'ancienneté également, c'est un conseil. Si vous venez d'arriver dans l'entreprise il y a quelques mois, attendez un peu, puisque demander une augmentation la première année, en règle générale, ça ne fonctionne pas. Choisissez aussi le bon moment. Ça peut être évidemment votre entretien annuel, mais aussi si vous changez de poste, si vous venez de réussir un projet important, ça peut être le moment d'aller voir votre patron, taper à la porte et je viens de réussir ce truc, je veux une augmentation. Évidemment, préparer son entretien, on n'arrive pas les mains dans les poches. L'objectif, c'est de convaincre votre employeur, nous disent les spécialistes, qu'il a intérêt à vous augmenter et qu'il y aura une forme de retour sur investissement. C'est-à-dire, si je donne à Estelle une augmentation, elle va être encore plus motivée, encore plus sympa, encore plus souriante. Et il y aura un vrai retour sur investissement.
Savoir se vendre. Quoi.
Difficile, parce qu'elle est parfaite pour l'instant.
Oui, bah, ça va. Non, mais il y a encore une marge.
elle garde de la réserve pour l'augmentation.
Moi aussi, j'ai une grosse marge, moi.
Attention aussi à l'argument du type, on me propose un poste ailleurs mieux payé. La forme de chantage, ça peut fonctionner, mais si jamais votre employeur vous dit « c'est compliqué pour l'instant, je ne vous augmente pas ».
Et que tu restes.
C'est ça. Si vous restez, il va falloir gérer effectivement le fait de rester. Et si vous partez, il faut mettre les menaces à exécution. Et il faut être sûr que la proposition à côté soit effectivement solide. Et puis, soyez patient. Ce qu'on vous dit, c'est que votre manager, maintenant, de plus en plus, n'est pas celui qui prend les décisions en ce qui concerne les augmentations. Donc, soyez patient parce que lui va sans doute devoir convaincre son propre manager. Donc, il faut savoir demander et savoir attendre. Les erreurs à ne pas commettre, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire. Ne pas justifier sa démarche, choisir le mauvais timing, faire du chantage, exiger une réponse immédiate et surtout accepter trop vite. Si on vous dit, tiens, je vais vous augmenter.
Je te donne 10, ça veut dire qu'ils peuvent 20.
Exactement,
bien joué. Est-ce qu'on peut négocier d'autres avantages que le salaire?
C'est très à la mode, oui. Les entreprises ont peur de s'engager sur des augmentations pérennes, donc elles donnent d'autres petits incentives.
Genre le vendredi, par exemple.
Alors 31%, voilà, pour les présentatrices de show à la mi-journée. 31% vont augmenter le remboursement des frais de trajet quotidien, 28% le remboursement des frais de déplacement, et puis la prime Macron, vous savez, jusqu'à 6 000 euros, la prime Macron, 52% des entreprises disent qu'elles pourraient y avoir avoir recours.
Merci beaucoup Stéphane, je me sens beaucoup mieux armée. Maintenant, je vous donnerai un petit 10% si je réussis. Manego, merci Stéphane Pedrazzi.
On a tous entendu, hein. Estelle partage son augmentation avec l'équipe.
Ouais, 10% de 10%, ça ne fait pas grand-chose.
Ouais, ça fait zéro, en vrai. Stéphane Pedrazzi, tous les jours, 13h50, dans Estelle Midi, la Minute Conso. Dans un instant, un automobiliste sur deux est aujourd'hui empêché de rouler dans les grandes agglomérations car il ne respecte pas les critères environnementaux des zones à faible émission. Est-ce qu'il faut supprimer ces zones? On en parle dans un instant avec vous. On attend vos témoignages au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.